je vais vous demander d'ouvrir votre Bible avant la prière et nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 21. Nous allons lire 5 versets. Il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël en marche dans le désert. Nombres, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie, la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Prions. Seigneur, nous voulons saisir tous les avertissements que tu as à nous dire. Mais nous voulons aussi saisir cette grâce que tu as à nous donner et à nous manifester. Qu'ainsi, dans notre marche, cela nous enrichisse, nous rende à la fois sages, prudents, mais aussi complètement engagé pour toi. Merci Seigneur de nous conduire à travers cette méditation au nom de Jésus. Amen. J'aimerais parcourir cet épisode de la vie du peuple d'Israël et peut-être le rapprocher un tout petit peu de notre réalité d'aujourd'hui. En le parcourant, nous allons découvrir ensemble peut-être deux choses. Un avertissement, mais aussi un engagement, deux choses qui peuvent nous aider aussi dans notre marche. Le livre de Nombres, c'est le quantième livre du Pentateuque. Madame a répondu, quatrième livre. Le quatrième livre du Pentateuque. Le Pentateuque, vous savez c'est quoi? Ce sont les cinq livres de qui? Ah, Moïse, il y en a qui hésitaient là-bas. J'ai entendu d'Abraham. Non, ça c'est pas vrai. J'ai pas entendu ça, c'est moi qui le dis. Ce sont les cinq livres de Moïse, les cinq premiers livres qu'on résume en disant que c'est le livre de la loi ou la Torah en général. Et vous savez qu'il y a un fil conducteur extraordinaire dans les cinq livres. Amusez-vous une fois à le lire, tous les cinq d'affilée. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'histoire ne se raconte pas sur un seul livre, la Genèse par exemple, ou l'Exode, mais c'est sur l'ensemble des livres, jusqu'à Deutéronome. Quatrième livre du Pentateuque, c'est le livre que peut-être... Je suis innocent. Oui, mon GSM, il n'est pas avec moi. Oui, il est avec moi, voilà. C'est toi qui fais le... Hein? Bon, allez. Mon fils ou ma fille, là, voilà. Donc, c'est le livre que les gens évitent le plus à lire parce que c'est un livre qui n'a pas de structure, enfin, en apparence. Ça n'a pas de structure. On ne sait pas très bien, il y a des trucs comme du plic-ploc comme ça, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe dans ce livre. Mais quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que c'est un livre qui est d'une grande richesse. D'abord, est-ce que vous savez que le nom du livre Nombre, on l'appelle Nombre, mais c'est pas vraiment son vrai nom en hébreu. Hein, nombre, ça vient de arithmoi, c'est la partie, si vous voulez, c'est le mot qui a été pris de la version grecque de l'Ancien Testament, donc la Septante. Mais en fait, en réalité, ce mot vient d'un mot hébreu qui dit dans le désert. C'est ça le titre du livre, dans le désert. Et c'est un livre qui raconte la marche du peuple de Dieu dans le désert. Ce sont les 40 ans ou les 38 ans qu'ils ont passé dans le désert que le livre énonce. Et le livre va prendre chaque fois des événements ponctuels, précis, pour manifester des réalités. Et le livre va opposer les réalités propres au peuple et les réalités ou le visage ou la face de Dieu. On va voir que dans ce livre, le peuple se révèle comme un peuple extrêmement rebelle. Dans le livre de Nombres, il n'arrête pas de murmurer, il n'arrête pas de se plaindre. Il regrette comme pas possible Égypte et ses concombres. Dans le livre de Nombres, on a un autre visage de Dieu, un Dieu de grâce, un Dieu de patience. Mais, trois points de suspension. C'est vrai que la marche du peuple dans le désert, ce n'était pas le Club Med. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, pour ceux qui ont déjà été au Club Med, moi je ne fais que imaginer ce qui se passe au Club Med. Je suppose que les gens sourient, hein, et les gens sont contents, ils sont détendus, hein. Bon, je suppose, hein, parce que j'ai jamais été au Club Med, moi. Mais le peuple d'Israël dans le désert, c'était pas évident. C'était pas agréable. C'était très dur. C'était une réalité au quotidien, une chaleur, une incertitude. On ne sait pas où on va. On est guidé par Dieu qui se lève, qui dit au matin, on va par là, et en avant, ils marchent. Et puis là, ils s'arrêtent. Ils ne savent pas pourquoi. Il leur manquait beaucoup de nourriture. Il leur manquait beaucoup d'eau. Il leur manquait tout le confort. Et le peuple a râlé, il râlé tout le temps contre Dieu. Non seulement ils étaient confrontés à des problèmes, disons matériels de la vie de tous les jours, mais ils avaient des ennemis en face. Ils avaient des peuples autour qui leur en voulaient, qui ne voulaient pas qu'ils passent par leurs frontières. Deux exemples. Les premiers versets que, les quatre premiers versets que je n'ai pas donnés, du premier verset au quatrième verset, racontent l'histoire d'une guerre que le peuple d'Israël va être obligé de mener contre le peuple cananéen des environs, parce qu'ils vont venir les attaquer. Ils vont attaquer le gros du peuple derrière, et Israël va devoir se défendre. Et Israël va prier Dieu, va dire au Seigneur, je vais les vouer interdits. Et le Seigneur a dit, ok, si tu les vois interdits, je te donne la victoire. Et ils vont les vouer interdits. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, et c'est ça qui va commencer le verset 4 que nous venons de lire, soit si tu peux remettre... Vous voyez, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Pourquoi? Pour contourner le pays d'Édom. Pourquoi? Parce que ils ont demandé l'autorisation au roi d'Édom en disant, nous voulons juste passer par votre chemin. Nous voulons passer par votre chemin, par votre pays. On ne va rien prendre. On ne prendra pas de l'eau, on ne prendra pas de nourriture, on ne se servira pas. C'est juste un passage. Et le roi d'Édom a dit, si vous passez ici, je vous attaque. Si vous venez par ici, c'est la guerre. Et le peuple d'Israël, finalement, a préféré contourner pour ne pas faire la guerre contre Édom. Petite histoire. Qui est Édom? Quelqu'un connaît? On peut profiter un peu, hein. Comment? Ésaü! C'est donc le frère de Jacob. C'est une tribu qui est en fait la tribu frère d'Israël, puisque Jacob va porter le nom d'Israël. Eh bien, c'est une tribu qui va lui faire beaucoup de misère. Si vous voulez lire un peu l'arrière-plan de tout ce contexte, prenez un prophète comme Abdias. Il raconte ça vraiment d'une manière remarquable. Ils vont donc contourner ce frère ennemi qui ne veut pas passer, qui ne veut pas qu'il passe par leur chemin. Et donc, ils vont contourner. Ça suppose qu'ils vont faire un plus long détour. Ça suppose qu'ils vont prendre un plus long chemin. Et vous savez, quand vous êtes fatigué, hein, je vois ça parfois avec mes enfants, on revient d'une course, on fait une deuxième course, quand on dit on va faire une troisième course, hein, on va aller encore où? Mais pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre, ils ont envie de rentrer à la maison, c'est tout. Et alors on voit qu'on s'arrêtait chez... Oh non, non! Et vous allez voir des noms en dégradé là-bas avec les petites voix, les gros noms et non, jusqu'au plus petit là-bas. Quand le chemin devient plus long, évidemment, ça devient plus fatigant, ça devient plus agaçant. Et c'est ce qui se passe avec le peuple. Tout d'un coup là, ils s'impatientent, ils en ont marre. Ça suffit, Moïse. Ça suffit. Pourquoi est-ce que vous nous faites tant souffrir? Et le peuple se met alors à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Je vous l'ai dit, ce livre de Nombre est un livre de murmures. Le peuple n'arrête pas de râler contre Dieu. Le peuple se montre très difficile avec Dieu, toujours prêt à critiquer tout ce que Dieu fait, à critiquer tout ce que Moïse fait. Et tous les choix qu'ils font, eh bien, c'est pas bien. Quelles sont les raisons, ce qui se passe, quels sont les mots qui sont derrière les murmures? Le peuple se plaint de ne pas avoir assez de nourriture. C'est ce qu'ils disent. Vous avez vu, hein, n'est-ce pas? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Le peuple en a marre. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas à boire. Deuxième sujet de plainte, c'est que le peuple en a marre de vivre dans une certaine incertitude, particulièrement par rapport à des risques de se battre avec d'autres peuples. Il n'est pas préparé à la guerre, il ne sait pas comment on doit se battre. Le peuple se plaint constamment. Il est exposé au danger de mort. Pourtant, quelle est la réalité? Regardez. Ils disent, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il manque à manger? Non! Ils sont à manger! Ils ont réclamé du pain, Dieu leur donne la manne. Ils ont la manne à cette époque-là. Ils ont les cailles. Dieu pourvoit la nourriture pour eux. Ils ont la nourriture. Est-ce qu'ils sont exposés au danger? Mais je viens de vous raconter cette histoire où ils ont gagné une guerre. Dieu est là avec eux, il les fait gagner des guerres. Mais alors pourquoi ils se plaignent? Pourquoi se plaignent-ils? Quand l'eau manque, Dieu pourvoit. Vous savez, au chapitre 20, Moïse va pécher contre Dieu avec Aaron parce qu'ils sont énervés. Le peuple a demandé de l'eau et Dieu a dit « Ok, tu tapes sur le rocher. » Et Moïse était tellement fâché qu'il a tapé deux fois. Et Dieu lui a dit « Ouh, je vais me taper une fois. » Tu as tapé deux fois. Tout ça parce que le peuple est tellement rebelle, murmurant. Toutes ces plaintes, par quoi ça s'explique? Ça s'explique par le fait que le peuple est rebelle. C'est un peuple désobéissant. C'est un peuple qui n'a pas confiance en Dieu. C'est tout. Malgré la main puissante de Dieu, dans leur marche dans le désert, ils n'ont pas confiance en Dieu. Et donc, ils se montrent impatients à son égard. Ils se montrent ingrats envers lui. Lui qui les a délivrés de l'Égypte. C'est pas lui qui disait à Moïse, « J'ai entendu les cris, les pleurs, les lamentations de mon peuple dans la servitude, dans l'Égypte, dans l'esclavage. Le peuple pleurait, souffrait, réclamait d'être délivré. Ils sont délivrés maintenant et ils ne sont quand même pas encore contents. Bien que l'Éternel a fait preuve de beaucoup de patience, bien que il a vraiment fait. Il leur raconte tout ce qu'il voulait. Vous voulez de l'eau? Allez, bon, ils sont de l'eau. Vous voulez à manger? Allez, en avant. Vous voulez quoi? Vous allez, hop. À un moment donné, trop, c'est trop. Stop. Stop. Le Dieu qui est lent à la colère peut aussi se fâcher à la longue. Trop, c'est trop. Dieu donc va les punir en leur envoyant des serpents venimeux. Il va les punir, il va faire tomber un jugement de sa part et ils vont avoir les serpents qui vont les tuer, mais qui vont en tuer beaucoup. Première chose que peut-être sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin, juste pour réfléchir et pour nous-mêmes aussi. C'est un avertissement. Comme le peuple de cette époque, les gens d'aujourd'hui aiment aussi se plaindre. Nous aimons nous plaindre. Les gens du monde, regardez dehors. Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Il fait, le temps est moche. Hein. On discute sur le temps. Et puis, au boulot, on discute toujours sur quelqu'un qui n'est pas beau, qui n'est pas grand, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. Je taquinais ma fille ce matin dans la voiture. Elle voit le lapin. Il y a un petit... C'est un lièvre qui passe. Elle dit, oh, c'est un lièvre. Enfin, c'est un lapin. Et son frère corrige. Non, c'est un lièvre. Et puis, elle dit, ouf, c'est pas un bel animal, il a des coups de longues oreilles. Et puis, moi, j'ai dit, mais, si c'est une créature de Dieu, et si Dieu l'a créée comme ça, en lui disant que c'est une moche créature, n'es-tu pas en train de dire que son créateur n'a pas vraiment eu une très bonne idée de le faire? Vous savez, les blagues contre les autres peuples, c'est toujours comme ça. Hein? On raconte que, par exemple... je ne vais pas raconter ça. C'est pas bien. Bon, j'arrête cet exemple-là. Donc, on a souvent tendance à se plaindre dans notre société. On a souvent tendance à exprimer des plaintes. Des plaintes à l'égard des autres, des plaintes à l'égard de soi-même. Et nous aussi, les chrétiens, on a tendance aussi à se plaindre et à murmurer. À murmurer les uns contre les autres, mais à murmurer aussi contre Dieu dans nos épreuves. Où est-ce qu'il est? J'étais glacé par ce film quand j'avais vu ce film de, je sais pas, c'est un vieux film pour ceux qui sont des cinéphiles depuis longtemps peuvent connaître ce film. C'est la série Jean de Florette et Manon de Source. Et dans ce film, à un moment donné, donc le monsieur, c'est Gérard Depardieu, il est bossu. Et alors, il va s'acheter un lopin de terre, il va tenter de le travailler en attendant la pluie. Et puis, survient un gros nuage avec l'espoir de pluie qui passe comme ça. Et puis, qui passe juste quelques gouttes. Et le nuage passe, pas de pluie. Le gars, il a regardé au ciel, il a lancé un poing comme ça. Vous avez oublié que je suis un bossu ? C'est des plaintes. Façon de dire, toi, tu me punis parce que je suis un bossu. On se plaint beaucoup de Dieu. Peut-être c'est un avertissement pour nous de savoir comment nous vivons notre vie et comment nous devons développer cette culture qui lutte contre les murmures, qui lutte contre les plaintes. Dieu est souvent pointé du doigt comme la source des malheurs des hommes. Des jeunes gens perdent leur grand-mère. Je me souviens à l'université, une fille qui a perdu sa mère, sa grand-mère, qu'elle aimait bien. Elle dit, pourtant, j'ai été à l'église, j'ai prié, mais elle est quand même morte. Alors Dieu est injuste, c'est sa faute à Dieu. Je dis, non, c'est pas la faute de Dieu. C'est la nature. Elle est morte de quoi, ta grand-mère? Ah, elle est morte de maladie. Ah, bon. Tu vas quand même aller dire que c'est Dieu qui a dit « Je veux que cette maladie entre dans cette femme !» Nous avons tendance à nous plaindre et à donner à Dieu la cause de nos malheurs. Ce texte nous met donc en garde contre l'attitude des murmures et des plaintes vis-à-vis de Dieu et de son œuvre. En effet, si Dieu est lent à la colère, celle-ci finit par éclater, pour punir, pour exercer du jugement contre ceux qui s'opposent et se rebellent contre lui. C'est un message à saisir pour nous-mêmes, notre autocritique personnelle, mais aussi autour de nous. Entendre ce qui se passe, voir les gens qui se plaignent et dire hey, « Stop, s'ils sont des croyants, attention, c'est pas bien de se plaindre. » Nous allons voir deux textes dans la Bible qui vont nous aider d'ailleurs à voir ce que je tente de dire. 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 1 à 6, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le résumé de l'apôtre Paul de ce que je viens de dire, de ce qui se passe dans le désert à l'époque. Écoutez, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans les nuées, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ça, c'est le résumé spirituel de l'apôtre Paul de ce qui se passe dans le désert. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Regardez le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est un avertissement. Ok? Est-ce que tu as noté aussi le verset 10? J'ai mis le verset 10 en bas, mais c'est pas grave. Le verset 10, justement, parle « Ils murmurèrent contre Dieu. » Et Dieu les sanctionna à cause de ça. C'est pas grave, Jacob. Mets-moi plutôt le suivant, le verset suivant. La même chose, l'exhortation toujours de l'apôtre Paul. Paul qui dit « ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Bien. Tu peux maintenant me mettre Philippiens 2, 4. Voyez, faites tout sans murmure ni hésitation. Ça, c'est l'exhortation de Paul. Faites toute chose sans murmure ni hésitation. Dieu veut que nous soyons un peuple joyeux, reconnaissant. Il veut que nous ne soyons pas un peuple qui se plaint. Parce que, contrairement aux apparences, mes amis, nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Deuxième chose que j'aimerais souligner à travers ce texte, cette deuxième chose, c'est l'autre partie du texte. Voilà le peuple qui va se faire mordre, qui va se faire mordre par les serpents, ils vont mourir. Un dieu de colère, un dieu vengeur, aurait dit à Moïse, ben quoi, ils n'ont qu'à mourir, hein. C'est la conséquence des actes qu'ils ont posés. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Les gens vous embêtent, ils reçoivent leurs sanctions, vous n'allez quand même pas dire, non, vous allez dire, oh, mais c'est très bien. Comme ça, ça tire des leçons. Mais la deuxième chose que j'aimerais signaler ici, c'est que lorsque le peuple va demander pardon, ils vont dire, nous avons péché contre toi. Nous avons fait des bêtises. Là, on est reconnaît, verset 7, on reconnaît que nous avons mal agi. Ils vont prier. Ils vont demander à Moïse de prier. Et Moïse va prier. Et Dieu va dire, élève un serpent. Un serpent des reins. Élève un serpent. Chaque fois qu'ils vont regarder à ce serpent, eh bien, ils vont pouvoir continuer à vivre. Ce verset, le verset 9, est le verset que Jésus va utiliser comme image dans Jean chapitre 3, verset 14, je pense, verset 14 et 15. Hein, de même que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit aussi élevé. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, en Jean. Eh bien, c'est ce verset que Jésus va utiliser dans son explication sur le plan du salut. En fait, au milieu d'une génération rebelle et irrespectueuse à son égard, Dieu va ordonner que la vie soit conservée à ceux qui pourtant méritent la mort. Malgré les murmures et les plaintes, Dieu continue à aimer le peuple, son peuple, malgré leur caractère. Il continue à les aimer. Il continue à écouter son cœur qui est rempli d'amour pour cette humanité perdue. Son cœur qui est fidèle à l'engagement qu'il avait fait au patriarche, à Abraham et à ses descendants. Les promesses que Dieu avait données lui-même, Dieu veut rester fidèle à cela. Et il écoute son cœur par rapport à cet amour qu'il a pour cette humanité. De la même façon aussi, avec Christ, le serpent des reins devient la croix. Et sur cette croix, c'est Jésus lui-même qui se sacrifie, tel un agneau innocent. Il nous rachète ainsi. Nous allons voir ça dans 1 Pierre, au chapitre 1. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. nous avons été rachetés. Dieu, en Jésus-Christ, nous rachète à travers la croix. L'apôtre Paul va dire la même chose aussi à propos du rachat, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce serpent d'airain au désert, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un geste de Dieu comme ça, d'un excès de bonté, d'un élan. Non, ce geste traduit son cœur. Le cœur de Dieu est le cœur prêt à pardonner, cœur prêt à porter le salut. Et déjà là, Dieu anticipe le plan du salut. Dieu manifeste sa grâce à travers cela. Il nous rachète. Il nous rachète à grand prix. Exactement comme ce peuple en ce temps-là, alors qu'ils ont péché contre Dieu, voilà que Dieu va quand même encore leur accorder le pardon. Alors ce matin, et je vais terminer avec cette petite réflexion, ce matin, nous sommes des croyants qui sommes riches. Riches, pas parce que nous avons beaucoup d'argent, je sais que parfois ça peut manquer l'argent, mais nous sommes riches. Riches parce que nous avons un Dieu qui a fait tout ce qu'il fallait pour nous témoigner son amour. En face d'un peuple aussi rebelle, aussi méchant, et attention, ne jugeons pas le peuple de Dieu dans le désert, parce que dans nos propres déserts, nous murmurons aussi. Dans nos propres déserts, quand il nous manque de tout, quand nous sommes dans les problèmes, dans des questionnements, dans des misères, nous posons beaucoup de questions, nous souffrons beaucoup, nous crions nous aussi. Et nous crions parfois contre Dieu nous aussi. Mais considérez la grâce des dieux. Malgré ce peuple méchant, malgré même parfois tout ce que nous méritons en termes de punition, en termes de sanction de la part de Dieu, malgré tout cela, Dieu fait grâce. Dieu manifeste sa grâce et son amour. Alors la question ce matin, est-ce que si nous sommes riches d'un Dieu, parce que nous avons un Dieu aussi merveilleux, aussi magnifique, est-ce que nous devons en abuser? Devons-nous en abuser? Devons-nous dire, ok, j'ai ce Dieu-là, ma vie à moi, je la vis comme je veux? C'est pas ce que le texte dit. Nous avons été rachetés à un grand prix et nous lui appartenons. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous devons vivre de manière à le glorifier, lui. Mais c'est plus que ça. Si nous avons un Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il est capable aussi de pourvoir à nos besoins. Un des sujets pour lesquels nous murmurons, c'est parce que nous croyons que Dieu n'est pas toujours capable de nous sortir de nos misères, d'intervenir dans nos situations difficiles. Parfois, nous sommes comme le peuple d'Israël, nous manquons la foi. Nous manquons la foi. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Que ce matin, ce texte nous rappelle combien Dieu est tout-puissant et combien sa puissance et son amour est aussi au service de notre salut. Le salut, pas seulement dans le sens sauvé en Jésus-Christ, mais le salut dans le sens aussi qu'il répond aux demandes, aux prières, à nos problèmes, à nos questionnements, à nos difficultés, il peut agir aussi. Que ce matin, nous puissions renouveler notre confiance en lui en disant, c'est un Dieu tout-puissant, je crois en lui, je lui fais confiance. Eh bien, dans mes problèmes, il sera là. Deuxième chose importante, si je fais l'objet de tant d'attention de la part de Dieu, c'est que je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que ça vous arrive, vous les chrétiens, de pouvoir vous regarder au miroir et dire, je ne suis pas n'importe qui? Non? Réagissez? Non? Oh, non, pas du tout. Je vous informe que vous n'êtes pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Vous êtes ses enfants. Vous êtes une valeur à ses yeux. Quand quelqu'un commence à regarder sa vie de cette façon-là, eh bien, beaucoup de choses dans sa vie, eh bien, il ne va pas les aborder avec peur, mais avec confiance, avec assurance. Il va avancer dans la vie en se disant, j'ai un Dieu tout-puissant devant qui j'ai de la valeur, aux yeux de qui j'ai de la valeur. Donc, je vais avancer en toute confiance. Je vais avoir toute la logistique qu'il me faut pour aller de l'avant. Si je me regarde positivement et que je regarde, je dis, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, je suis son ambassadeur, son ministre, ça veut dire que je peux ouvrir la bouche et parler sans avoir peur des gens, sans avoir peur de ce que je veux dire. Je vais être sûr de la vérité que je vais annoncer aux gens en disant, ben ouais, c'est vrai. Tu peux rigoler si tu veux, mais c'est vrai ce que je dis. Je le crois. Si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, ça veut dire que quand je me comporte toujours en fonction de ce que je suis réellement aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir ce regard-là et que, à travers ce texte, nous réalisons à quel point, d'un côté, l'humain est quelqu'un de très, très, très facile à se rebeller et à se révolter. Et faisons attention à nous-mêmes. Veillons sur ça. Ne nous mettons pas dans des endroits, dans des lieux, dans des occasions où nous pouvons pécher contre Dieu. Donnons-lui honneur, parce qu'il le mérite. De l'autre côté, sachons mesurer la grâce de Dieu. Une grâce incompréhensible. Vous, les Anglais, vous utilisez un mot qui s'appelle « amazing ». J'aime trop ce nom-là. « Amazing grace ». Je trouve ça extraordinaire. Quelque chose que on ne peut pas comprendre. Ça nous surprend, ça. C'est inattendu, c'est ah, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de traduire amazing en français? Ça veut dire quoi, amazing?
Étonnant.
Oui, mais je crois que c'est plus fort qu'étonnant. C'est plus fort qu'étonnant. C'est vraiment quelque chose qui te déroute, c'est ton ennemi qui veut te tuer et qui dit non, je te tue plus. Un truc comme ça. C'est extraordinaire. Et si nous pouvons mesurer l'immensité de la grâce de Dieu, alors, il y a beaucoup de choses qui auront des conséquences dans nos vies. On va l'aimer. On va s'engager pour lui. On va être pour lui à 100%. Comme lui, il est pour nous à 100%. Là aussi, tout ça, c'est possible aussi parce que Dieu est puissant. Amen. Prions. Merci Seigneur pour l'avertissement. Aide-nous à vivre sans nous plaindre, sans murmurer. Aide-nous à vivre dans la joie, dans la reconnaissance. Merci aussi, Seigneur, pour cette grâce, cet amour, cette rédemption que tu nous accordes en Christ, ce salut merveilleux, ce signe de ton amour, de ta grâce infinie. Aide-nous à nous engager après toi en toute confiance. Au nom de Jésus. Amen.